Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, je récupère le micro. Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International. On est très content de, bah, de reprendre cette nouvelle saison avec vous. On ne les a pas comptés. On doit être à la 10e ou 11e saison, si on ne s'est pas trompé, sur l'antenne de Principe Actif, deux fois par mois, entre septembre et juin, pour vous parler de l'actualité et de nos campagnes pour la défense et la promotion des droits humains. Voilà. Et les émissions sont bien sûr réécoutables sur le site de Principe Actif dans la rubrique Amnesty International. Et pour animer l'émission ce soir, avec nous, il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Et il y a Edith. Alors Edith, en fait, vous allez l'entendre, mais elle n'a pas pu venir ce soir, donc elle nous a envoyé quelques enregistrements que j'ai montés et qu'on va vous passer tout à l'heure.
Non, mais voilà. Elle est avec nous, elle nous écoute, c'est sûr.
Bah, elle nous écoute, oui.
Si ça diffuse jusqu'à Amiens, elle nous écoute.
Ah bah, ça diffuse partout dans le monde, puisque ça passe aussi sur Internet, donc en direct. Donc, dans le monde entier, on peut nous écouter sur Internet. Hein. Voilà. Donc, bah, Edith, si tu nous entends, on te fait une grosse bise. Voilà. Et puis, alors, pour bah, plein de sujets encore ce soir, on va vous parler beaucoup des droits des femmes en Afghanistan, en Iran, etc. On va vous parler aussi de l'évolution de la peine de mort en Afrique. On va vous parler de la COP28, c'est Edith qui va vous en parler, de la future COP28 qui va se passer sous la présidence d'un pays qui est très engagé pour la défense du climat, puisque c'est un pays producteur de pétrole et dans les Émirats Arabes Unis. Cherchez l'erreur. Voilà, et donc plein d'autres choses, et on va terminer par nos infos locales. Alors surtout, ne quittez pas l'antenne avant 20h, parce qu'on a une grande information. On refait une foire aux livres, on va vous le dire tout de suite. On refait une foire aux livres le 15 octobre, donc dans un peu plus d'un mois, et on compte sur vous aussi bien pour y venir que pour nous aider. On en reparlera à la fin de l'émission. Voilà. Donc, pour commencer cette nouvelle saison, bah, je vais vous lire un édito dans la chronique. Moi, je me suis beaucoup servi des chroniques. On vous rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty International France. Et vous pouvez vous abonner. Vous avez le formulaire sur le site amnesty.fr. N'hésitez pas. Donc, c'est le dernier édito l'avant-dernier édito de notre président, Jean-Claude Sabouillet, qui est paru cet été. C'est pas la bonne chronique. J'en ai pris deux, j'ai pas pris la bonne, justement. Donc voilà, cet édito. Le matin du mardi 27 juin 2023, vers 8h, un policier a tué par balle et à bout portant un mineur de 17 ans, Naël, lors d'un contrôle routier à Nanterre, dans la banlieue de Paris. C'est la sidération, l'effroi, la colère et un immense dégoût. Parce que tout de suite, une journaliste de CNews affirme, sans la moindre vérification, sans la moindre preuve, qu'il, donc Naël, avait un casier judiciaire long comme le bras, alors que Naël n'avait jamais été condamné par la justice. Et combien même ? Serait-ce une raison pour le tuer ? Ensuite, ce sera un déferlement de haine raciste et de contre-vérité sur les réseaux sociaux, dans certains médias et dans certains discours politiques. Une tentative de déshumaniser, de discriminer la victime et de décriminaliser l'acte qui a conduit à sa mort. Par la suite, de façon complètement surréaliste et obscène, certains tenteront de justifier cet acte par les violences urbaines qui ont suivi. Rien n'excuse les violences d'où qu'elles proviennent, mais rien ne justifie non plus la mort d'un jeune homme de 17 ans, plus tout à fait un enfant ni un ado, mais tout de même encore mineur et certainement pas un refus d'obtempérer. Et puis il y a ce déni indécent et persistant des autorités. 13 décès ont été enregistrés en 2022 après des refus d'obtempérer lors de contrôles routiers. 10 jours avant la mort de Naël, Al-Moussan Camara, 19 ans, avait lui aussi été tué par un tir de police près d'Angoulême en tentant d'échapper à une interpellation au volant de sa voiture. Alors que cette liste de morts ne cesse de s'allonger, la seule théorie avancée par l'État est celle des bavures isolées, de vilains petits canards, entre guillemets, qui utiliserait la force de manière abusive. Mais les violences urbaines de 2005, consécutives à la mort de Zined et de Bouna, également à la suite d'un refus d'obtempérer, après ces violences urbaines, le président Chirac avait vu une faille dans le modèle d'intégration. Nous ne construisons, il avait dit, nous ne construirons rien de durable sans combattre ce poison pour la société que sont les discriminations. Nous ne construirons rien de durable si nous ne reconnaissons pas et n'assumons pas la diversité de la société française. C'était donc Jacques Chirac à l'époque qui avait parlé. Aujourd'hui, on incrimine pêle-mêle la seule responsabilité des parents, les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Mais c'est d'une analyse approfondie du maintien de l'ordre dont nous avons besoin. Il faut mettre sur la table, une bonne fois pour toutes, la question du recours disproportionné à la force policière, ainsi que celle des pratiques discriminatoires systémiques. Voilà l'édito de Jean-Claude, donc. Et puis juste, alors, enfin, je vais chanter du coq à l'âne, mais vous savez que Jeanne Birkin est morte cet été. Bon, on n'a pas trop l'habitude dans nos émissions de parler des gens du showbiz, entre guillemets, mais Jeanne Birkin était quelqu'un de très engagé avec Amnesty depuis très longtemps. Donc je vais vous lire simplement les quelques mots qu'il a écrits pour elle. Jeanne Birkin nous a quittés cet été, elle qui nous a tellement aidés dans notre combat pour les droits humains. En 2012, elle avait confié à la Chronique, donc d'Amnesty, « Pour moi, c'est plus simple d'agir que de rester avec ma culpabilité devant ma télévision en me disant « Ah, les pauvres gens !» Que son souvenir nous conforte dans le combat. » Voilà. Et donc, sans transition, je crois que c'était Clarlise qui voulait vous parler d'un sujet tout à fait d'actualité, puisqu'elle va vous parler de rentrée des classes.
Eh ben oui, la semaine dernière, c'était la rentrée pour des milliers d'enfants en France, des milliers d'enfants et d'adolescents. Et à en entendre le tout nouveau ministre de l'Éducation nationale, tout s'est très bien passé. Alors, monsieur le ministre, tout s'est très bien passé, sans doute, mais il y a quand même des organisations non gouvernementales, des ONG, qui ont lancé l'alerte parce que à cette rentrée des classes, en France, en 2023, il y avait 3800 enfants à la rue. Je dis bien 3800 enfants et adolescents, à la rue, c'est-à-dire sans hébergement, c'est-à-dire qu'ils subissent le sort que subissent leurs parents, et ce sont des enfants qui sont à la rue. Et Évreux n'est pas épargné. Et donc, moi, je vais vous parler de la rentrée d'un petit garçon qui s'appelle Winner. Winner, c'est un petit garçon congolais. Sa maman est arrivée en France cet été avec lui. Alors, ils ont dû traverser la Méditerranée puisqu'ils ont été repris par les gardes-côtes italiens, et ils ont donc pénétré en Europe par l'Italie. Donc, sa maman, Titina, donc de nationalité congolaise, a fait une demande d'asile en France et elle a été enregistrée à la préfecture de Rouen le 25 août 2023. On lui a pris ses empreintes, donc on a vu qu'elle était passée par l'Italie, puisque gentiment là-bas, les gardes-côtes prennent de force les empreintes des gens qu'ils ont sauvés en mer. Et donc, il y a les accords de Dublin qui font que les personnes qui veulent demander asile en Europe doivent demander asile dans le premier pays où ils ont mis les pieds, même s'ils veulent aller sur un autre pays. Et donc, comme ces empreintes ont été repérées en Italie, on a donné un récépissé à Titina, un récépissé procédure Dublin. Donc, depuis le 25 août, elle a quand même des droits en tant que demandeur d'asile en France, même si elle ne peut pas demander l'asile à l'OFPRA, elle a quand même un récépissé, elle est en situation régulière avec ce récépissé Dublin, elle et son petit garçon, et ils étaient en attente de pouvoir être logés par ce qu'on appelle les CADA, les centres d'accueil de demandeurs d'asile. Donc les CADA, ils sont gérés par l'OFI, l'Office français pour les immigrés, qui gère pour le ministère de l'Intérieur toutes les questions d'hébergement des demandeurs d'asile. Sauf que les CADA à Évreux, c'est pareil, il n'y a pas assez de places par rapport au nombre de demandeurs d'asile à Évreux. Et très souvent, les gens, quand ils arrivent, ils attendent déjà de passer au GUDA, donc des fois, ça peut prendre un ou deux mois, mais après, ils sont obligés d'attendre qu'il y ait une place libre en CADA. Et Titina et Winner, ils n'ont pas de place. Voilà, ils sont à la rue. Et le petit Winner, il est rentré le 4 septembre, il est rentré en CP à l'école de la rue Jean-Moulin. Sauf qu'il va à l'école à 8h30 le matin, mais il a dormi dans la rue. Quand il arrive à l'école, il n'est pas lavé, il n'a pas déjeuné, parce que sa maman n'a pas le temps de l'emmener à accueil service qui ouvre à 8h30. Donc le petit garçon qui vient de commencer l'école en CP, eh bien, il la commence dans des situations vraiment très très difficiles. Et il n'est pas le seul. Il y a aussi Madame Zua. Donc c'est une maman, elle, qui vient d'Angola avec ses 5 enfants. Donc il y a des enfants en primaire et des enfants au collège ou au lycée. Mais c'est pareil, ils dorment à la rue. Donc il y a beaucoup de familles qui sont dans ce cas. Quand ils appellent le 115, malheureusement, le 115, lui aussi, est saturé depuis des mois et des mois. Alors, ce que je dis là, ce n'est pas pour incriminer les personnes qui gèrent les CADA ou qui gèrent le 115, même le 115 le 115 de l'heure. Mais c'est pour alerter sur la situation qui est quand même alarmante, sur des personnes qui, normalement, ont quand même des droits, qui sont des êtres humains, qui l'hébergement, c'est un droit fondamental inconditionnel, et malheureusement, pour des raisons budgétaires ou autres, parce qu'il y a aussi quand même des consignes qui parfois sont données par la préfecture, eh ben, des personnes ne peuvent pas être hébergées. Donc Winner, eh ben, on est à la recherche de quelqu'un qui pourrait héberger la maman et l'enfant en attendant que l'OFI leur accorde une place en CADA. Donc, si vous souhaitez devenir hébergeur solidaire, vous pouvez prendre contact soit avec Amnesty International et je ferai le lien, soit avec Un Toit Sous la Main, je ferai le lien aussi pour pouvoir accueillir ces personnes en hébergement. Sachez aussi que, parce que quand ils sont comme ça à la rue, là, la maman de Titina et Winner, ils dorment sous des... Comment ça s'appelle? Excusez-moi. Sous des ponts, à côté de la gare SNCF. Voilà, ils sont plusieurs à s'y entasser, dont une femme enceinte de 7-8 mois aussi, Octavie. Donc, c'est quand même préoccupant. On connaît la crise actuelle hein, au niveau de l'hébergement d'urgence, le manque de place en CADA sur Évreux, le 115 saturé, les nombreuses personnes laissées à la rue, y compris des femmes enceintes et des enfants. Cette situation n'est pas nouvelle, elle dure depuis des mois. Nous vous alertons ce jour sur la situation de cette maman et de son fils, mais ce sont bien sûr toutes ces situations humaines qui sont alarmantes, indignes de notre État républicain et non conformes aux droits des enfants. Pour en revenir à la rentrée des classes du petit Winner, c'est pas normal qu'un enfant aille à l'école après avoir passé la nuit dans la rue à Évreux en 2023. Ben, Je suis très colère.
C'est clair. Ben, on rappelle, donc, si vous avez une possibilité ou si vous connaissez quelqu'un qui a une possibilité, effectivement, pour aider ces gens à trouver un abri, ce qui est un droit humain fondamental et ce qui ne devrait jamais arriver. Cette situation est décrite par Claire Lise. Donc, vous pouvez nous contacter. L'adresse mail du groupe d'Évreux, c'est evreux@amnestyfrance.fr. evreux@amnestyfrance.fr. Vous nous envoyez un mail et on fera suivre de toute façon pour trouver des solutions par rapport à ces gens-là.
Donc, il y a une autre situation qui me tient à cœur. Ça prend 2 minutes, je vais vous dire. C'est qu'il y a une pétition en ligne sur change.org. C'est aider le petit Elia, 3 ans, qui présente un lourd handicap. Donc aider Elia et sa famille d'origine géorgienne et son petit frère Efrémi, qui eux non plus n'ont pas d'hébergement puisque leur demande de titre de séjour parents d'enfants malades a été refusée puisqu'on estime qu'ils peuvent être soignés que l'enfant peut être soigné en Géorgie alors que ses médicaments ne sont pas accessible en Géorgie. Les parents ne veulent pas mettre l'enfant en danger, le garde veulent rester en France. Donc sur change.org, si vous cherchez aider Elia et sa famille à rester en France, vous trouverez facilement cette pétition. Elle a été relayée depuis le 10 août auprès de... Il y a beaucoup de gens du groupe d'Amnesty qui l'ont signée. Il y a beaucoup de gens des associations locales d'Évreux qui l'ont signée et je les en remercie. Mais il faut diffuser le plus largement possible et si vous pouvez la signer et la partager, ça aidera aussi cette famille. Voilà.
Tout à fait. Et on rappelle que c'était peut-être un engagement de l'actuel président de la République française quand il a commencé son premier mandat de s'engager à ce qu'il n'y ait plus personne, français ou pas français, à la rue. On en est très loin. Voilà, c'était un petit rappel de ses promesses électorales. On va passer à un autre sujet, donc c'est la future COP, la COP 28. Et c'est Edith qui vous en a parlé et on se retrouve juste après.
Donc moi, je vais évoquer un article que j'ai lu dans la chronique. C'est un article d'Éric Dourel qui parle de la prochaine COP 28. Il dit « C'est l'histoire du pompier pyromane que l'on nomme pour éteindre l'incendie. Le sultan Al-Jabbar, 49 ans, ministre émirati de l'industrie et PDG du groupe pétrolier ADNOC, va prendre la tête de la COP 28 qui va avoir lieu dans la capitale des Émirats Arabes Unis du 30 novembre au 12 décembre prochain. Et il y a aussi quand même une autre problématique, c'est que ce pays est à 6% des réserves mondiales de pétrole. Et les Émirats ne sont pas vraiment les champions de la lutte contre le réchauffement climatique. Avec 20 tonnes 4 par an et par habitant, ce pays fait partie des 5 plus gros émetteurs de CO2 par habitant de la planète. Et chaque année, sa production de pétrole augmente. Le ministre de l'Industrie et de l'Avancement technologique est en première ligne. Sur la défensive, le sultan Al-Jabbar tente de verdir son image. Le Guardian a ainsi révélé fin mai que sa page Wikipédia avait été greenwashed. La signature en 2019 par sa société d'un accord de 4 milliards de dollars avec les géants américains pour développer des oléoducs a ainsi été supprimée. Le sultan a nié ce coup de com', mais dans les échos du 26 juin dernier, Majib Al-Suwaï, directeur général de la COP 28 pour les Émirats Arabes Unis, a pris sa défense. Mais les gens oublient qu'il préside Masdar, l'un des premiers véhicules d'investissement dans les énergies renouvelables du monde. Nous avons par exemple aujourd'hui 3 des plus grands projets solaires. Et le sultan a d'ailleurs participé à 14 COP. Il connaît le problème climatique. Alors, sans succès, une centaine d'ONG ainsi que 133 personnalités politiques des États-Unis et de l'Europe ont demandé publiquement sa révocation. D'autant qu'en plus des enjeux climatiques, les Émirats arabes sont pointés du doigt pour leur non-respect des droits humains. La COP 28 n'aboutira pas à l'action ambitieuse dont nous avons besoin pour éviter l'effondrement du climat si elle se tient dans un environnement où l'État hôte a des lois qui restreignent la liberté d'expression des participants et un passé d'étranglement de la société civile. C'est ce que dit Eba Morayef, directrice régionale d'Amnesty International pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, avec exemple à l'appui. Leur gouvernement n'a libéré aucun des 60 Émiratis qu'il avait injustement emprisonnés lors du célèbre procès de masse de 2013, alors que 51 d'entre eux ont fini de purger leur peine. Les défenseurs des droits humains sont également dans le collimateur du gouvernement, dont est membre le sultan Al-Jabbar. C'est le cas d'Ahmed Mansour, condamné en 2017 à 10 ans de prison et maintenu à ce jour à l'isolement, sans lit, sans matelas ni oreiller et sans accès à la lumière du jour. Voilà. Alors, pour ceux qui se posent la question, mais qu'est-ce donc ce procès de 2013? Eh bien, j'ai été regarder dans les archives d'Amnesty. Donc, c'est un procès pour lequel 68 personnes ont été arrêtées dans les Émirats Arabes Unis, ayant critiqué le gouvernement, et cela a montré à ce moment-là ce que disait Amnesty, que les autorités étaient déterminées à écraser toute forme de dissidence. Alors, ce procès a été marqué par des allégations de torture dont le tribunal a fait ouvertement abstraction. les droits de la défense ont été bafoués et aucun observateur indépendant n'a été autorisé à assister aux audiences. Donc il y avait 68 personnes, dans celle-ci il y avait des juges, plusieurs avocats spécialisés dans la défense des droits humains et d'autres qui étaient des avocats de premier plan spécialisés aussi pour les droits humains. Et toutes ces personnes-là avaient été condamnées entre 7 et 15 ans et donc les avocats dont je vous parle ont été condamnés à 10 ans. Ce qui explique la réflexion de la directrice d'Amnesty, donc 2013-2023, ils ont fait leur peine et ils devront être libérés. Je n'hésite pas à rajouter une petite info par rapport aux situations des droits humains dans le royaume des Émirats Arabes Unis. Donc ça, c'est une info révélée par Mediapart. Entre 2017 et 2020, une société privée de renseignement suisse, Alp Service, a livré au service émirati le nom de plus de 1000 personnes et 400 organisations européennes supposément liées aux frères musulmans. Alors, dans cette info, on trouve 200 Français et 120 organisations basées dans l'Hexagone. C'est totalement illégal. Ce fichage a ciblé des personnalités en plus n'ayant rien à voir avec l'islam radical, comme le socialiste Benoît Hamon, l'autrice Rougata Diallo ou le CNRS.
Voilà, donc on remercie, c'était donc Edith, à distance, qui nous a envoyé tout ça, on la remercie. Et donc on va faire la première pause musicale, on se retrouve juste après.
Amor y guerrero moche. On est jamais la bougie, le gorille, on est gorille moche.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International pour Évreux pour la suite de son émission de promotion et de défense des droits humains. On vient d'entendre, alors je ne vais pas écorcher son nom, une chanteuse afghane. Et vous allez comprendre pourquoi on vous a passé un morceau d'une chanteuse afghane qui s'appelle Sonita Alizadeh. Et le morceau s'appelle, alors c'était en pashtoun, hein, évidemment, moi je ne parle pas du tout le pashtoun, mais ça s'appelle Marié à vendre. Et juste pour information, en fait, c'est une militante des droits des femmes en Afghanistan qui a dû fuir le pays, qui est actuellement réfugiée aux États-Unis parce qu'elle était beaucoup trop menacée là-bas, et qui, en fait, elle-même a failli être mariée de force deux fois dans sa vie, alors qu'elle est encore très jeune, dont la première fois à l'âge de 8 ans. Voilà, donc le morceau s'appelle Marié à vendre. Et elle s'appelle, elle, Sonita Alizadeh. Et toujours sur l'Afghanistan, c'est Claire-Lise qui va vous en parler.
Eh bien, le 27 août 2021, à l'issue d'un pont aérien chaotique, le siège se refermait définitivement sur la société afghane, contrainte de vivre à nouveau sous le joug des talibans, sans échappatoire possible. Le 27 août 2023, notre tribune revient sur la nécessité de venir en aide aux femmes afghanes, toujours prisonnières d'un régime qui tente de les faire disparaître. Depuis le 27 août 2021, date de fin du pont aérien entre Kaboul et la France, les libertés se sont drastiquement réduites et le pays vit désormais sous une chape de plomb, dans une illusion sécuritaire et une répression féroce à l'encontre de tous ceux qui contestent le régime en place. Depuis surtout, le nouveau régime mène une guerre sans merci contre ce qui semble représenter le danger le plus redoutable à ses yeux. Un ennemi omniprésent en Afghanistan, mais vulnérable, sans armes, et en grande partie abandonné de la communauté internationale, la femme afghane. Ce à quoi nous assistons, en effet, c'est une véritable campagne de persécution organisée, généralisée et systématique, fondée sur le genre. Un des pires systèmes de domination mis en place dans le monde au niveau étatique pour contrôler et effacer l'existence des femmes dans l'espace public. Cette guerre contre les femmes, comme nous l'avons qualifiée dans notre rapport publié en mars 2023, pourrait ainsi constituer, selon notre analyse, un crime contre l'humanité, dont les auteurs, nous l'espérons, devront répondre un jour devant les juridictions nationales ou internationales. La faillite de l'État afghan, notamment dans l'arrière-pays, où ses missions régaliennes, santé, éducation, sécurité n'étaient plus assurées, est sans doute à l'origine du retour des talibans au pouvoir. Mais depuis plus de 20 ans, toute une génération de filles avait pu avoir accès, au moins dans la capitale et dans les plus grandes villes, à un minimum d'éducation, à un travail dans la fonction publique ou même à la direction de sociétés privées. Ce temps est révolu. Et cette parenthèse d'espoir s'est brutalement refermée pour des millions de femmes afghanes qui n'ont plus d'autre choix que de se soumettre et dépérir. En dépit de promesses d'inclusivité qui n'ont engagé que ceux qui y ont cru dans les milieux diplomatiques, l'éducation est devenue peu à peu inaccessible pour les jeunes filles, désormais exclues des écoles après l'enseignement primaire. Elles ont bien sûr été interdites d'inscription à l'université, elles ont été écartées de la vie politique et de la plupart des emplois de la fonction publique. De fait, ce sont toutes leurs libertés qui sont peu à peu estompées, à mesure que leurs vêtements, à nouveau imposés, recouvraient leur corps et leur visage. À commencer par la liberté de manifester. Nombre de femmes qui ont contesté ce retour à un système ultra-patriarcal l'ont payé cher. Harcèlement, disparition, emprisonnement et torture se sont multipliés ces derniers mois pour étouffer toute velléité de protestation. Nombre de femmes qui ont contesté ce retour à un système ultra-patriarcal l'ont payé vraiment très très cher. Mais le plus flagrant est sans doute leur invisibilisation en dehors de la structure familiale. Interdites d'entrer dans les parcs publics, les femmes doivent être accompagnées par un tuteur masculin pour toute sortie hors du domicile. Les risques en matière de santé sont en outre grands pour les Afghanes, les femmes, seules à pouvoir les soigner, étant de moins en moins présentes dans le secteur médical et n'ayant plus accès aux études de médecine selon les ONG qui travaillent dans le pays. Beaucoup sont dès lors tentés de fuir le pays. Mais pour aller où? Et surtout comment? Une fois la décision prise, commence en effet pour la candidate à l'exil un parcours de la combattante des plus éprouvants. Après s'être procuré un passeport et avoir trouvé un passeur capable de leur faire traverser la frontière, le plus simple pour elle est de rejoindre l'Iran ou le Pakistan. Et là, arrive l'attente insupportable pour un sésame vers un pays tiers, avec les risques d'arrestation arbitraire et de harcèlement pour nombre d'entre elles devenues irrégulières à l'expiration de leur visa, ou parce qu'elles sont entrées illégalement dans le pays, avec le risque permanent d'être envoyées en Afghanistan. Les femmes afghanes ont le droit de vivre dans la liberté et la dignité. C'est par ces mots que le président Macron promettait à l'été 2021 que la France resterait aux côtés des Afghanes. Quelques semaines plus tard, le ministre des Affaires étrangères et européennes précisait même « Nous devons accompagner celles qui partent, celles qui ont trouvé refuge dans un pays voisin de l'Afghanistan, celles qui demandent l'asile, par exemple, en France ou en Europe. » Nous sommes conscients des efforts accomplis par la France pour évacuer plus de 6000 Afghans risquant des persécutions en 2 ans. Mais les critères et les modalités d'inscription de ces personnes réfugiées demeurent peu transparents et ces aides ont baissé d'intensité. Surtout, aucune action concrète n'a été observée pour accorder plus rapidement l'asile aux femmes bloquées en Iran ou au Pakistan, ou de faciliter et accélérer les procédures de réunification familiale pour les conjointes et les enfants d'Afghans exilés en France. Alors que l'action de la France, entre autres pays, a été déterminante dans l'accueil de réfugiés ukrainiens depuis les débuts de la guerre d'agression de la Russie en février 2022, nous ne pouvons que constater la différence avec les exilés afghans et d'autres nationalités traitées avec une moindre considération, voire avec défiance. La guerre contre les femmes menée par les talibans mérite que l'on apporte tout notre soutien à ces femmes qui fuient l'obscurantisme. En décembre prochain, la France sera organisatrice, co-organisatrice du Forum mondial sur les réfugiés. À ce titre, nous demandons aux autorités françaises de prendre des engagements clairs en faveur de l'accueil des femmes afghanes, notamment dans le cadre du programme de réinstallation des personnes particulièrement vulnérables du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Voilà.
Merci Clarlise, effectivement c'est tout à fait important. Je rappelle qu'Amnesty demande, enfin dans les différentes prises de position d'Amnesty par rapport aux femmes afghanes, il demande que toute femme afghane fuyant son pays soit dans le pays d'accueil, dans le pays dans lequel elle arrive pour se protéger, soit automatiquement, qu'elle bénéficie automatiquement du statut de réfugiée.
Ouais. Mais je pense qu'elles tombent dans un autre piège si elles arrivent en Iran ou au Pakistan.
Oui, oui, non, mais je parle dans les pays qui sont un peu mieux respectueux des droits humains, comme la France par exemple, qui elle bénéficie automatiquement du statut de réfugié, parce que femme afghane fuyant le régime des talibans. Une petite information complémentaire, si ce sujet vous intéresse, et vous interpelle, et je n'en doute pas, il y a une émission de radio, je suis tombé dessus un peu par hasard en fin de semaine dernière, mais qui est écoutable sur le site de France Culture. On va faire de la publicité pour France Culture, mais avec grand plaisir. Cette émission s'appelle « 7 femmes, 4 murs, 1 toit, une maison afghane ». Et ça dure 1 heure, et c'est une journaliste française qui est allée à Kaboul en fin d'année dernière, et qui a interviewé effectivement des femmes afghanes et qui les fait parler sur leur vie de tous les jours, les répressions qu'elles subissent, le poids de la culture, le poids de la religion, etc. etc. C'est pas vraiment une émission militante, mais c'est une information extrêmement importante et qui explique beaucoup de choses par rapport à tout ce qu'on vient de vous dire. Donc je vous rappelle le titre de l'émission, c'est très facile à trouver. Hein. Vous tapez 7 femmes sur le moteur de recherche sur le site de France Culture et vous tombez automatiquement sur cette émission à réécouter. Je ne peux que vous le conseiller. Et puis j'ai déjà l'occasion de le dire ici à la radio, mais je le répète, moi en tant qu'homme, ce genre de régime politique comme les talibans ou d'autres, hein, ou le régime iranien, on va vous parler aussi de l'Iran tout à l'heure, qui bafoue et qui maltraite, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui met à bas tous les droits des femmes, et ben ces gens-là qui décident ça en tant qu'homme, ils me portent atteinte eux-mêmes à ma dignité, moi en tant qu'homme aussi, c'est clair. Donc voilà, et alors on va changer de toujours sur le droit des femmes, je vais vous lire une autre information. Là, il s'agit ça se passe en Inde, et il s'agit du meurtre d'une jeune personne et toute la récupération politique qui a été faite autour, et c'est aussi une information qui a été publiée cet été dans la chronique. Donc, elle se rendait tout simplement à l'anniversaire du fils d'une de ses amies à New Delhi, ce dimanche 28 mai. Sache qui est alors poignardée dans la rue à une trentaine de reprises par son ex-petite amie. Elle avait 16 ans et venait de rompre. Le corps inanimé de la jeune fille est resté à terre une demi-heure avant que les secours ne soient appelés. De nombreux passants ont assisté à la scène. Seul un homme a tenté de s'opposer à l'agresseur. En vain. Le meurtre avec préméditation de Sachki s'ajoute à la longue liste des violences faites aux femmes dans la capitale indienne, d'ailleurs considérée comme la ville la plus dangereuse du pays pour celle-ci. Cette tragédie a également relancé la propagande islamophobe en Inde. Largement diffusée sur les réseaux sociaux, les images effroyables de l'assassinat, captées par une caméra de vidéosurveillance, ont pris soin de mentionner la religion de la victime, hindoue, et celle du criminel, musulman. Une fois de plus, le BJP, le parti nationaliste hindou du premier ministre Modi, n'a pas hésité à récupérer ce féminicide pour stigmatiser la communauté musulmane dans son ensemble. Un député donc du BJP a même affirmé que ce crime faisait partie du Love Jihad. Selon cette théorie du complot, les Indiens musulmans auraient pour objectif de se marier avec des Indiennes hindoues dans le but de les convertir et de devenir, à terme, majoritaires dans le pays. En attendant, le débat sur les violences faites aux femmes est occulté. En Inde, près d'un tiers des femmes subissent des violences physiques ou sexuelles. Voilà. Donc, on peut aussi dire que cette histoire du grand remplacement, qu'on entend aussi chez nous, hein, dans l'extrême droite, est utilisée aussi contre les musulmans en Inde. Voilà. Avec la même démagogie et les mêmes propos insupportables. Voilà. Troisième pays, je crois, par rapport aux droits des femmes, Clarisse, tu vas nous parler d'Iran.
L'Iran. Voilà. Donc, les femmes iraniennes qui défient le port obligatoire du voile et qui font face à une répression accrue. Donc, depuis avril 2023, les autorités iraniennes intensifient la répression contre les femmes qui défient les lois liberticides et discriminantes sur le port obligatoire du voile et choisissent de ne pas le porter en public. Nous dénonçons ces atteintes graves aux droits des femmes en Iran. Alors, depuis avril 2023, c'est une nouvelle campagne de répression qui fait rage en Iran. Et donc, c'est un virus, une maladie sociale, un trouble ou encore une dépravation sexuelle. C'est ainsi que des fonctionnaires et des médias publics qualifient le fait qu'une femme ne porte pas le voile en Iran. Voilà, c'est un virus, une maladie sociale, un trouble ou encore une dépravation sexuelle. Alors que depuis la mort de Mahsa Amini en septembre 2022, les Iraniennes et Iraniens manifestent courageusement pour réclamer plus de liberté et le respect de leurs droits fondamentaux, les autorités redoublent de méthodes oppressives pour contrôler et punir les femmes et les jeunes filles. Au lieu d'entendre le message scandé à l'unisson dans les rues du monde entier, femmes, vie, liberté, les autorités iraniennes continuent de violer gravement leurs droits sociaux, économiques, culturels, civils et politiques et de restreindre leur liberté de mouvement. Alors, d'innombrables femmes se sont vues refuser l'accès à l'éducation, aux services bancaires et aux transports publics. Les tribunaux ont également imposé des peines dégradantes aux femmes reconnues coupables d'avoir enfreint les lois sur le port obligatoire du voile, obligation d'assister à des séances de conseil pour comportement antisocial, de laver des cadavres à la morgue, de fournir des services de nettoyage dans les bâtiments publics, etc. Donc, le projet de loi visant à soutenir la culture de la chasteté et du hijab, qui renforcerait encore la discrimination en privant de leurs droits humains, y compris et de leurs droits sociaux et économiques, les femmes et les jeunes filles qui choisissent de ne pas porter le voile. Cette loi exposerait par ailleurs toutes celles et tous ceux qui soutiennent le droit des femmes à choisir leur mode d'habillement à deux longues peines d'emprisonnement, à la flagellation ou encore à des interdictions de voyager. Et donc, la police des mœurs est de retour en Iran. Donc, le 16 juillet 2023, le porte-parole de la police, Sayed Motazer Al-Mahdi, a annoncé le retour des patrouilles de police à pied et en voiture pour imposer le port obligatoire du voile dans tout le pays. Il a précisé que des poursuites judiciaires seraient engagées contre les femmes et les filles qui s'obstinent à enfreindre les règles et menacer de les déférer devant la justice. Alors, on se souvient quand même qu'en décembre 2022, sous la pression de la contestation sans précédent qui avait gagné le pays, à la suite de la mort de la jeune Mahsa Amini, le procureur général iranien avait annoncé la dissolution de la police des mœurs. L'unité qui avait arrêté Mahsa Amini, puis qui l'avait assassinée. Donc, c'est une annonce qui n'a jamais été confirmée par les autorités officielles de la République islamique d'Iran, ni suivie de faits. Et aujourd'hui, des annonces officielles indiquent au contraire leur retour dans les rues d'Iran et même le renforcement du contrôle des femmes non voilées. Alors, c'est quoi la police des mœurs en Iran? Eh bien, la police des mœurs iranienne, alors Gach-e-Rshad, est une sous-branche des forces de police du pays, mise en place en 2005. Elle relève du mandat du ministère de l'Intérieur et cette unité patrouille dans les rues iraniennes, agit au nom de la défense des bonnes mœurs. Et c'est cette même unité donc, qui est responsable de beaucoup d'agressions envers les femmes. La répression observée actuellement en Iran est renforcée par le recours à des technologies de surveillance de masse qui sont capables de révéler l'identité des femmes qui ne portent pas le voile dans leur voiture ou dans les lieux où elles circulent à pied. Entre le 15 avril et le 14 juin 2023, la police a envoyé plus d'un million de SMS contenant des messages d'avertissement à des femmes photographiées sans voile dans leur voiture. Alors, 133 174 SMS ont ordonné l'immobilisation temporaire du véhicule, 2000 voitures ont été confisquées et 4000 récidivistes ont été déférés devant la justice à travers le pays. Des centaines de commerces ont été fermés parce qu'ils n'ont pas appliqué les lois sur le port obligatoire du voile et des femmes se sont vues refuser l'accès au système éducatif, au système bancaire et au transport public. Un million de SMS contenant des messages d'avertissement adressés à des femmes. 108 211 signalements relatifs à l'obligation du port du voile ont été effectués concernant des infractions observées dans des commerces. 300 délinquantes ont été identifiées et déférées devant la justice. Et ça ne s'arrête pas là. Donc, les autorités judiciaires de l'exécutif ont soumis au Parlement, le 21 mai 2023, un projet de loi donc, qui est beaucoup plus inquiétant, qui vise à resserrer encore plus la répression contre les femmes qui oseraient défier la loi et ne pas porter le voile. Et donc, c'est tout un ensemble de sanctions qui porteront gravement atteinte aux droits fondamentaux des femmes, notamment à leurs droits sociaux et économiques. Amendes, confiscation des voitures, des appareils de communication, interdiction de conduire, prélèvement sur le salaire ou les prestations liées à l'emploi, licenciement ou encore interdiction d'utiliser les services bancaires. Donc, ce projet de loi propose de condamner les femmes et les filles déclarées coupables d'avoir enfreint la législation sur le port du voile de façon systématique. Et ce projet de loi propose des sanctions aussi pour les athlètes, les artistes et les autres personnalités publiques qui ne respectent pas l'obligation du port du voile, telle que l'interdiction de participer à des activités professionnelles, l'emprisonnement, la flagellation et des amendes. Voilà. Donc, ce sont des peines dégradantes qui sont proposées. Et nous saluons le courage des femmes iraniennes et des Iraniens qui continuent de s'opposer à l'oppression et à se battre pacifiquement pour leurs droits fondamentaux. Nous sommes à leur côté et nous demandons à la communauté internationale et notamment à la France de réagir dès maintenant. Ensemble, continuons de scander avec le peuple iranien « Femmes, vie, liberté ». Nos demandes, donc, c'est que les autorités iraniennes doivent abolir l'obligation du port du voile, annuler toutes les déclarations de culpabilité et toutes les peines prononcées contre les femmes et les filles qui ont défié cette obligation, abandonner toutes les charges retenues contre celles qui encourent des poursuites et libérer sans condition toutes celles qui ont été incarcérées parce qu'elles n'ont pas respecté l'obligation du port du voile, abandonner les projets visant à sanctionner les femmes et les filles parce qu'elles ont exercé leur droit à l'égalité, au respect de la vie privée et à la liberté d'expression et de religion et de croyance. Les États doivent réagir par le biais de déclarations publiques et d'interventions diplomatiques énergiques, réagir en actionnant les recours juridiques permettant de mettre en cause la responsabilité des dirigeants iraniens qui ont ordonné, planifié et commis des violations généralisées et systématiques des droits fondamentaux des femmes et des filles avec l'application de l'obligation du port du voile. aider les femmes et les filles à fuir lorsqu'elles le souhaitent, fuir la persécution liée au genre et les graves violations des droits humains commises en Iran, veiller à ce qu'elles puissent accéder rapidement et en toute sécurité à la procédure de demande d'asile et à ce qu'elles ne soient en aucun cas renvoyées de force dans leur pays. Dès aujourd'hui, soutenez-nous, soutenez les revendications d'Amnesty International pour changer des vies.
Tout à fait. Donc ça consiste aussi, effectivement, à pas seulement nous écouter, mais aller sur le site, signer des pétitions, et puis, s'engager un peu plus avec Amnesty.
Et soyez vigilants à ce qui se passe en France, parce que dernièrement, il y a quand même eu des femmes iraniennes à qui on a refusé l'asile.
Tout
et
à fait.
C'est quand même absolument aberrant.
Je renvoie à ce que disait la citation de Jane Birkin en début d'émission. Effectivement, on ne peut pas se contenter de se mettre en colère devant sa télévision, mais il faut aller un petit peu plus loin. Et Amnesty, comme d'autres ONG de défense des droits humains, le permet. Donc voilà, on va passer, parce qu'on est un tout petit peu en retard, à la deuxième.
On n'est que deux, mais on a trop de sujets.
À la deuxième pause musicale, et on se retrouve juste après.
On se bat parce qu'on ne sait plus se taire. Pour ne jamais oublier comment inventer, comment faire. On se bat du bout de nos peines perdues. On se trompe, on recommence à la recherche de l'attendu. On se bat pour faire bouger les lignes. Le point d'exclamation, le point en l'air et celui à la ligne. On se bat parce qu'on veut faire chanter la petite voix des méprisés, des premiers de corvée. On se bat. On se bat. On se bat pour grandir sans crainte, sans se soumettre à l'injustice des violents et leurs contraintes, avec le doute de nos vies imparfaites, pour que nos mains puissent se toucher dans le gradin de la fête. On se bagarre pour ne plus avoir peur, pour nous remplir d'impossible, pour être actrice, pour être acteur, acteur de nos vies, de fracas et de joie. Parce que je sais pas comment ça marche, sans te prendre dans mes bras, je me bats. On se bat pour le droit de choisir, de faire ce pourquoi on est né. On se bat pour croire en l'avenir, on se bat pour oser les virages. On se bat pour la beauté du geste, sans barrière et sans cage. On se bagarre parce qu'on n'est pas tout seul, parce qu'on est plein à vouloir vivre pour des encore, pour des toujours. S'il manque une pièce, à quoi sert le puzzle? Si certains peuvent s'enfuir plus vite, on dit que personne ne court pour tout ça. On se bat. On profite du monde en travaux pour lui poser quelques questions. Tu fais quoi pour les exilés qui viennent s'échouer dans tes filets? À quoi tu joues? À quoi tu penses? À trop cultiver le clivage quand tu enfermes l'esprit critique pour le réduire en esclavage? Et tu fais quoi de tous ces gens qui font que tu tournes encore rond? Les oubliés, précarisés, transformés en chair à canon. Et qu'est-ce que tu fais de ta jeunesse? Écoute la détresse de son cri quand tu lui fais une claque dans le dos en lui disant ça, c'est ta vie. Pourquoi tu joues avec la peur? Pourquoi tu veux la distiller? Pour bâillonner le libre arbitre ou pour lui couper son sifflet? Alors on se bat et on lâchera pas. Même si parfois les bras nous tombent, c'est pas pour ça qu'on les baissera. Alors on se bat et on lâche rien. Pour toucher du doigt l'impossible, pour que nos rêves soient invincibles. Alors on se bat et on lâchera pas. Même si souvent les bras nous tombent, c'est pas pour ça qu'on les baissera. Alors on se bat et on lâche rien. Pour toucher du doigt l'impossible, pour que nos rêves soient invincibles, pour tout ça. On se battra.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc on vient d'entendre Ben Herbert Larue, voilà, qu'on avait déjà passé dans l'émission il y a quelques mois. C'est un artiste du coin, puisqu'il est de la région rouennaise. Il a Il participe à beaucoup de soutien pour Amnesty International. Et je trouvais que pour une émission de rentrée, tout ce qu'il vous a dit dans la chanson qui s'appelle « On se bat » était fort à propos. Voilà, on va vous passer un deuxième enregistrement que nous a envoyé Edith, donc qui va vous parler cette fois de la Turquie. Et on se retrouve juste après.
Notre petite nouvelle, Big Brother, nos droits à l'épreuve de nouvelles technologies. Turquie, en prison pour une moustache. Il avait dessiné au stylo bille une moustache d'Hitler au président Erdogan sur une affiche de la campagne électorale. Pour ce geste, un adolescent de Mersin, au sud-est de la Turquie, a été arrêté le 7 juin et incarcéré au centre des mineurs de la prison de Tarsus, selon la chaîne privée Halk TV. Repéré et identifié par une caméra de surveillance, le lycéen de 16 ans a été interpellé au domicile de ses parents par la brigade des mineurs. Le jeune homme a reconnu avoir dessiné la moustache, mais a nié les commentaires qui l'accompagnaient. Déféré devant le procureur, il a été inculpé pour insulte au président. Le 30 avril dernier, un autre adolescent de 13 ans avait été mis en examen pour le même motif. En 2022, selon les statistiques publiées par le ministère de la Justice turque, cette inculpation a été prononcée à 16 753 reprises, dont 1075 à l'encontre de mineurs de plus de 13 ans. 13 ans, c'est l'âge de responsabilité pénale en Turquie. Et tous risquent jusqu'à 4 ans de prison. Allez, une autre petite nouvelle, Big Brother.
Voilà, c'était Edith, j'ai coupé juste avant la fin, c'était reparti pour un tour, voilà. Mais bon, c'était la même information que celle que vous venez d'entendre. Donc, on va passer aux infos locales, puisqu'on va toucher au terme de l'émission. Donc, Claire Lise, je crois qu'on a une foire aux livres dans pas si longtemps.
Oui, alors désolée, j'avais prévu de parler du Soudan. J'en parlerai dans 15 jours parce que effectivement, je veux pas bâcler le sujet. Et puis, on voit l'heure qui tourne et on veut rendre l'antenne comme c'est la rentrée. On veut être des bons élèves et bien rendre à l'heure à Manu tout à l'heure l'antenne. Donc, je vais vous parler de la foire aux livres. Donc, on a décidé cette année d'en faire une deuxième puisque on n'est pas sûr de rester dans le local que nous prête la municipalité depuis une dizaine d'années, donc qui est à l'espace Saint-Léger, puisqu'on nous a dit qu'il faudrait peut-être déménager d'ici la fin de l'année. Donc du coup, on essaye un petit peu de vendre notre stock de livres. Donc on a fait une belle foire aux livres qui était le 2 juillet, ou le 3, je ne sais plus.
Le 2 juillet.
Et on va en faire une seconde le 15 octobre. Donc on essaye de tout sortir, hein, tout notre stock, et de faire des prix encore plus petits que la dernière fois, pour essayer de déstocker au maximum, parce que vous imaginez bien que s'il faut qu'on déménage, on va avoir un petit souci avec toutes nos caisses de livres. Donc c'est quand même une vente qui est faite pour soutenir Amnesty, pour soutenir les droits humains, et puis on vous propose toujours des pétitions à signer, de prendre contact avec les gens du groupe. C'est toujours agréable de pouvoir discuter avec vous quand vous venez sur cette foire aux livres qui se passe, j'espère qu'il fera beau encore, donc en extérieur sur le parking de l'espace Saint-Léger. Ça sera de 9h30 à 17h30 à peu près, enfin la vente en tout cas c'est dans ces horaires là. On a aussi besoin de bénévoles ce jour-là pour nous aider à sortir tous nos cartons et à les rentrer. Donc si vous avez envie de venir participer, de prendre contact avec l'association, rejoignez-nous dès 7h du matin pour installer les tables et puis toutes les caisses de livres. On sera ravis de vous accueillir et de vous offrir des petites viennoiseries après l'effort, bien sûr. Et puis le soir, de nous aider à ranger, parce que c'est vrai que nous, les bénévoles, on est un petit peu vieillissants et on est moins nombreux qu'avant, et donc on a besoin d'aide pour cette grosse manifestation en organisation. C'est quelques temps forts là sur l'installation et le rangement.
Tout à fait. C'est, on rappelle quand même que Amnesty International ne se finance, c'est important de le savoir, ne se finance qu'avec le soutien du public, exclusivement. Et on refuse toute subvention, quelle qu'elle soit, y compris une subvention d'une mairie ou des choses comme ça. On n'en veut pas. Et donc, cette foire aux livres nous permet effectivement au groupe d'Evreux de se financer. C'est l'essentiel de nos revenus. Et donc, c'est déjà une action pour défendre les droits humains, c'est de venir acheter nos bouquins, qui sont des bouquins d'occasion, mais en très bon état, à un prix tout à fait abordable, c'est le moins qu'on puisse dire.
Défiant toute concurrence,
voilà, chercher le terme. Et c'est une première étape pour soutenir les droits humains. On aura aussi quelques pétitions et quelques actions à vous proposer, mais déjà, le fait de venir acheter nos livres, c'est déjà important pour nos actions pour les droits humains. Alors, je regarde toujours la pendule, mais là, il nous reste encore deux petites minutes. Alors, je vais quand même vous donner, mais très vite, une bonne nouvelle, parce qu'une émission d'Amnesty sans bonne nouvelle, il manque quelque chose. Donc, on a appris cet été que le Ghana, l'État du Ghana en Afrique, avait aboli, et c'est le 124e État dans le monde à le faire, avait aboli la peine de mort. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Amnesty a quand même une petite réserve qui a son importance, parce que donc le Ghana a aboli la peine de mort pour toutes les condamnations, sauf les crimes de haute trahison. Voilà. Donc, Amnesty demande à ce que cette dernière clause de haute trahison, qui est suffisamment vague pour être mise à toutes les sauces, si on voulait, soit également saute également, et que la peine de mort soit sans condition, l'abolition de la peine de mort soit sans condition au Ghana.
Voilà. Parce que je disais à Didier tout à l'heure, c'est que c'est moins pire, mais c'est toujours pas top non plus.
Oui.
Parce que ils le gardent et puis ils peuvent effectivement le mettre. On va être à l'heure, il y a Manu qui arrive.
Oui, il y a Manu qui arrive, on va lui céder l'antenne avec beaucoup de plaisir dans très peu de temps. Mais donc, oui, effectivement, c'est quand même une bonne nouvelle, même si Amnesty demande à ce que cette dernière clause de crime pour haute trahison, pour lesquelles les gens pourraient encore être condamnés à mort, n'existe plus non plus dans le droit au Ghana. Enfin, c'est quand même le 124e État à abolir la peine de mort, ce qui n'est pas négligeable. On rappelle que à la fin des années 70, il y avait en tout et pour tout moins de 40 pays dans le monde qui avaient aboli la peine de mort. On en est maintenant à 124.
Oui, mais voilà. C'est vrai aussi que quand on a un regard, on voit la bouteille à moitié pleine, à moitié vide. Il y a aussi beaucoup d'États qui se disent démocratiques, qui disent qu'ils ont aboli la peine de mort, mais qui continuent quand même à ce qu'il y ait des disparitions.
Oui.
Des gens qui sont éliminés, qui disparaissent, et dont on n'entend plus jamais parler. Alors, ils sont pas vraiment. Effectivement, il n'y a pas la peine de mort dans leur.
On est bien d'accord.
Mais il y a quand même beaucoup de gens qui disparaissent encore. Hein.
Mais on est bien d'accord. Mais comme tu disais, effectivement, il faut aussi voir la bouteille à moitié pleine. Donc, effectivement, un État qui abolit la peine de mort pour Amnesty et pour les défenseurs des droits humains, c'est toujours une bonne nouvelle. Voilà. Bon, fin des infos locales. Donc, info radio, on se retrouve pour notre prochaine émission, donc la deuxième de la rentrée. Ce sera le mardi 26 septembre, de 19h à 20h en direct sur l'antenne de Principe Actif. On vous rappelle que les podcasts sont mis en ligne très peu de temps après les émissions sur le site de principeactif.net dans la rubrique Amnesty International. Donc, n'hésitez pas à les écouter ou à les réécouter. Et que notre prochaine émission Fréquence Droits Humains aura lieu le 19 octobre, donc à 18h, jeudi 19 octobre de 18h à 19h30, toujours sur l'antenne de Principe Actif, et aura pour thème le handicap et la défense des droits humains, un thème qu'on n'a encore jamais abordé avec des gens spécialistes de la question. Voilà. Eh bien,
conclure, n'oubliez pas le petit Winner, 7 ans,
oui,
qui dort à la rue et qui a fait son entrée au CP. C'est le 4 septembre dernier. Et puis, les autres enfants qui, à Évreux, sont aussi à la rue. Donc, soutenez Un Toit Sous la Main, soutenez les actions des associations d'aide. Et éventuellement, si vous pouvez héberger pour une nuit, deux nuits, trois nuits, faites-vous connaître en attendant qu'on trouve des solutions auprès des organismes qui sont censés pouvoir offrir des hébergements, c'est-à-dire l'OFI pour les demandeurs d'asile et puis pour les autres, le 115.
Donc on rappelle juste rapidement l'adresse mail si vous voulez nous contacter, evreux@amnestyfrance.fr. Voilà. Et on se retrouve le 26 septembre. À bientôt. Bonne soirée.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
avec vous ce soir Amnesty International Évreux.